Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls spécial comics. Apparu aux environs de 6000 avant Jésus-Christ, le miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion. C'est souvent une couche métallique fine qui, pour être protégée, est placée sous une plaque de verre. Le miroir renvoie une image fidèle, bien que considérée abusivement comme inversée, de la personne qui se regarde dedans. Il est donc chargé d'une forte connotation symbolique. Aussi, il n'est pas étonnant que dans Don Quichotte, le chevalier des miroirs soit l'ennemi mortel de Hidalgo, dont il renie l'inspiration. Rappelons-nous également les mots de Jorge Luis Borges. Bios Casares se rappela alors qu'un des hérésiarques avait déclaré que les miroirs et la copulation étaient abominables, parce qu'ils multipliaient le nombre des hommes. Apparu pour la première fois le 6 octobre 1967 dans l'épisode Mirror Mirror, l'univers miroir n'a eu de cesse de faire couler de l'encre. Il apparaît dans 14 épisodes, toutes séries confondues, 15 comic books, 5 jeux vidéo et 15 romans. C'est un pan majeur de Star Trek et aujourd'hui, pour la toute première fois, nous allons en parler sous les micros de Star Trek pour les nuls. Et pour vous accompagner dans ce voyage aujourd'hui, Pauline.
Bonjour.
Comment ça va, Pauline?
Ça va, ça va. oui, c'est une intro très...
Très longue.
Je ne sais pas comment...
J'ai pas prévu de thé, j'ai pas prévu d'eau, et là j'ai déjà la bouche toute pâteuse. Et pour nous accompagner également, Dragor. Bonsoir, Dragor.
Bonsoir. Alors moi je te le dis tout de suite, heureusement que j'étais en push to talk, hein, parce que j'étais incapable de me retenir de rire pendant ton intro.
Comment ça? Qu'est-ce qu'elle avait de mal, mon intro? Était magnifique.
Oui, c'est un qualificatif que oui, pourquoi pas, oui.
Eh bien, Jamy, parle-nous un peu de l'histoire du miroir. Après cette introduction d'environ 1h35, vous avez compris que vous étiez sur les ondes de Parlons Trek et que vous écoutiez Star Trek pour les nuls.
Star Trek pour les nuls.
Et voilà, aujourd'hui donc, on va parler de Star Trek The Next Generation Mirror Broken. Et qui veut se lancer dans le résumé de ce magnifique ouvrage?
Ben moi du coup, vu que...
Voilà. Vu que t'es la seule volontaire. Ouais. Non, mais moi je veux bien si tu veux, mais ça va être très court.
Mais bon. Non mais bah après j'ai pas prévu de faire très. Donc Mirror Broken TNG se déroule au 24e siècle. On y retrouve Picard version miroir à bord du Stargazer l'introduction d'ailleurs je trouve enfin j'en parlerai après. Je vais vous faire un super résumé, vous allez regretter de m'avoir laissé
Je donnerai mon résumé après pour...
On a une petite mise en contexte sur l'état de l'Empire Terran après ce qui s'est passé dans Mirror Mirror, en disant que le Spock Mirror a essayé d'instaurer pas mal de changements lorsqu'il est devenu empereur, sauf qu'après en fait quand il est mort ça a été un peu la merde. Et on nous parle de l'alliance Klingon et Cardassienne qui, en gros, poutre l'Empire Terran depuis presque un siècle. Et donc, on retrouve Picard au bord du Stargazer qui en chie un peu. Décide de ramener un joli prix sur Mars en ramenant un vaisseau Cardassien. Et c'est là qu'il découvre... une nouvelle arme, un nouveau vaisseau fabriqué en secret, qui est en fait le Big D, mais version miroir. Donc il fomente un complot pour piquer le vaisseau, se casser, Et il tape sur plein de vaisseaux en passant. Et au final, on ne lui tape pas sur les doigts parce qu'il a volé le vaisseau, parce qu'il aide à redorer un peu le blason de l'Empire Terre. Voilà.
Tu as dit le Big Deal ou le Big D?
Le Big D.
Hey, salut. Non, je plaisante. Je sais pas imiter Gaston Lagaffe. Vincent Lagaffe, pardon. Ok, super résumé. Est-ce qu'on on va juste... On n'a pas cité l'équipe technique. Non pas Géordi Laforge, mais...
Ouais. Moi, je les ai notés s'il y a besoin. Donc, oui. Je les ai sous les yeux.
Vas-y, je t'en prie.
Au scénario, on a David et Scott Tipton. À l'art and color, on a J.K. Woodward. Et au lettrage, on a Unworld Design, qui n'est pas une personne, je pense.
Non, c'est souvent des groupes. C'est comme les traducteurs, genre ils se traduisent, ils marquent MACMA pour pas dire quel traducteur. Alors, il y a juste, en fait, Woodward a fait la colorisation du premier numéro. Et le 2 à 5 a été fait par Charlie Kirchhoff, que je ne connais pas. Ah, yeah. Alors, on disait donc, J.K. Woodward, en fait, a colorisé le premier épisode. Le premier épisode. Et 2 à 5 a été fait par Charlie Kirchhoff, que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est votre cas non plus.
Non, je ne connais pas.
D'accord. Et voilà. Donc, ben, David et Scott Tipton, on ne les présente plus. Hein. On parle d'eux que d'eux à chaque émission. Et qu'est-ce que vous avez pensé déjà, avant de parler de l'histoire du dessin de Woodward?
Ah bah c'est super beau, hein. C'est des peintures, quoi.
Ouais. Alors, moi j'ai un avis assez mitigé, en fait. Donc, je sais pas, Pauline, t'en as pensé quoi?
J'aime bien les scènes de vaisseaux de bataille spatiale dans l'espace. J'ai trouvé ça super joli. Par contre, je suis pas du tout réceptive au style des visages et des personnages.
Ouais, il y a un petit problème de proportion parfois.
Hein. Oui, puis alors, ils font des têtes. Il fait faire des expressions faciales très très bizarres à ces personnages parfois. Enfin. C'est assez étrange. Je pense que pour moi, c'est peut-être trop réaliste et ça fait bizarre.
Ah oui, la vallée dérangeante un peu, non ?
Ouais. Il y a des moments sur certaines expressions, il fait des traits, des rides d'expression, des choses comme ça. Et comme le visage est assez lisse, quand même, ça fait bizarre. J'aime pas tellement. Mais sinon, au niveau des fonds, il y a des trucs qui sont quand même très jolis. Surtout au niveau des batailles spatiales, j'ai trouvé ça sympa.
Je suis assez d'accord. Je partage ton avis. En fait, même les poses iconiques. Par exemple, là, je suis en train de feuilleter le bouquin, deuxième ou troisième page, on voit Picard sur son pont avec les personnes autour de lui qui commandent. Il n'y a pas de geste, ça ne bouge pas. Et la pose est assez iconique, ça passe. Mais le reste du temps, déjà, dès qu'il y a du mouvement, on a l'impression, cette étrange impression, que les visages sont figés, mais que les corps bougent. Ou bizarrement, ils tournent la tête à presque 90 degrés, des fois, c'est des hiboux.
Oui, c'est vrai,
c'est
ça. Oui.
Particulier.
C'est vrai. Maintenant que tu le dis, j'avais pas trop, ça m'avait pas trop marqué, mais voilà, je suis sur une page où il y a Barclay qui est en train de parler. Il a tout son corps tourné vers la console,
ouais.
Sa tête tournée vers Picard. Il est hyper lax des cervicales, quoi. Il a le menton par-dessus son épaule. C'est très bizarre. Effectivement.
Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais partagé, je la retrouve pas, une image de Picard. qui a la tête pareil à plus de 90 degrés tournée comme si ouais comme un hibou quoi, il peut tourner la tête non-stop. C'est assez rigolo. Bon, après hors ça comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est quand même très très joli suivant les scènes. What else? Alors, le scénario. Dragor, qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire de manière générale?
Ben, pas grand-chose en fait. C'est fun, mais j'ai pas grand-chose à. Enfin, comment dire? C'est pas hyper profond quoi. Je veux dire, c'est voilà, c'est du ouais, c'est fun. J'ai juste bien aimé le fait qu'ils reprennent les. Ce qu'on voit de l'univers miroir du 24e siècle dans Deep Space Nine. Parce que l'univers miroir dans TNG, on le voit pas de mémoire.
Non.
Et dans Voyager non plus. Donc il y a que dans Deep Space Nine, ils ont repris hein, les paradigmes qui sont établis dedans. C'est-à-dire, ce qui est dit un peu en intro dans le premier tome, c'est l'Empire terrien s'est affaibli. Suite au fait que au réformisme de Spock, et du coup ça a permis aux Klingons et aux Cardassiens de s'unir et de réduire les Tariens plus ou moins en esclavage, en tout cas une partie des humains en esclavage. Donc ça c'est moins abordé dedans d'ailleurs, mais et bon du coup ouais c'est j'ai trouvé ça intéressant qu'ils fassent ça. C'est pas bête. Ce qu'ils auraient pu imaginer un tout autre univers miroir en se disant, bah, de toute façon, en TND, il n'y en a pas, donc on fait ce qu'on veut. Ils ont quand même gardé ça, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont des tenues plus proches des premières saisons de Deep Space Nine, dans l'inspiration, que des tenues de TNG.
Oui, c'est vrai.
Après, le comics est sorti en 2017, donc il y avait Deep Space Nine de sortie, donc ils ont forcément. Il y avait la matière pour s'insérer dans la continuité de ce qui avait été montré.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Mais il me semble que, bah, de toute façon, les Tipton sont assez bien respectueux de la continuité. Hein. On avait souligné plusieurs fois que leurs œuvres se glissaient bien.
Mais d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui font référence. Et moi, j'ai trouvé plein de petits détails qui font référence à des épisodes de TNG. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça permet à l'histoire de bien s'insérer, même si c'est la version miroir. Par exemple, les vaisseaux et les capitaines qu'on croise, hormis Jellico. Bah, Jellico, après, on le voit dans TNG aussi, mais... Par exemple, le Captain Scott qui a abordé, je ne sais pas s'il est cité, l'USS Renegade. Il y a aussi l'USS Horatio et le Captain Walker. C'est des capitaines qu'on croise dans l'épisode Conspiracy de TNG.
Ah d'accord.
Comme l'Amiral Quinn d'ailleurs aussi.
Ah ouais, c'est des noms qui me parlaient, mais j'arrivais pas à me rappeler d'où. Ouais, d'accord,
c'est compliqué. Ouais, moi, du coup, j'ai cherché, parce que c'est pareil, je me disais, tiens, et du coup, c'est bien d'utiliser le matériau laissé par la série, parce qu'après tout, c'est logique qu'on croise qu'il y ait ces mêmes personnes-là. Il y a Léa Abrams aussi, qui est avec Jordi, qui est là, dans TNG, c'est... Il y a l'épisode où Geordi crée un double d'elle dans l'Holodeck. C'est une ingénieure qui est d'ailleurs docteur à l'Institut des Strong qui a supervisé les générateurs des champs subspatiaux de l'Enterprise, puis qui a fait d'ailleurs des théories sur les champs de distorsion et tout ça. Donc, je trouve qu'ils ont bien recollé.
Ouais, j'ai bien apprécié de retrouver ce personnage-là d'ailleurs. Et d'ailleurs, bizarrement, je trouve que la relation entre Jordi et Léa Abrams, elle est plus saine dans l'univers miroir que dans TNG, où c'est quand même un peu...
C'est pas difficile de faire ça. Hein.
Qu'est-ce que vous avez pensé de Tasha Yar?
Eh ben, ça m'a pas marqué.
Ben, en fait, elle y est sur deux pages. Oui. Elle y est au tout début. Barclay la regarde d'un mauvais œil. Elle se fait promouvoir. Elle tourne le dos, Barclay lui plante un coup de couteau dans le dos. Et Ça me refait penser à ce que je disais dans la dernière émission comics à propos des coups de couteau dans le dos, en fait. Ça y est beaucoup moins dans celui-là, mais très souvent, en fait, dans les épisodes de Miroir, dès que tu tournes le dos à un mec ou
non, mais
une fille,
de toute façon, ils n'arrêtent pas de... D'ailleurs, moi, c'est l'univers Miroir. Je le trouve super fun, mais c'est pas du tout crédible. Mais c'est super fun. Donc,
Et d'ailleurs, je trouve que l'univers Miroir de The Space Nine, c'est peut-être celui où ça arrive le moins, même dans les séries.
Dans Enterprise, il n'y a pas tant de morts que ça, si. Je me souviens plus très
bien. Si, pas mal. Ça, surtout sur le deuxième, dans la deuxième partie, une fois qu'ils ont le Defiant, c'est la fête du couteau.
D'accord.
C'est pas toujours un couteau, hein. Des fois c'est du poison dans un verre de champagne. Mais c'est le principe est là, quoi.
Ouais. Les concepts des personnages, c'était pas mal. J'étais juste un petit peu déçu par Wesley Crusher. Parce qu'on revoit tout l'équipage complet de TNG, évidemment, mais en version miroir. Donc on a un capitaine Picard, Jean-Luc de son prénom, bodybuildé comme c'est pas possible. Pardon, quand il joue aux échecs.
Après, ils sont tous bodybuildés. Donc, tous les hommes sont bodybuildés. Donc,
ouais.
C'est raccord.
C'est ouais, mais c'est à mourir de rire quand tu vois Jean-Luc
même
Picard
Data,
en train de
alors
jouer...
que c'est un androïde.
Oui, Data.
On le voit même soulever de la fonte, Picard, en plus.
Il évite une tentative d'assassinat en faisant du sport. Voilà. Le sport tue, on ne vous le dira jamais assez. voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Cette image magnifique de Picard en train de jouer aux échecs. C'est pas des échecs en 3D d'ailleurs, et ça c'est cool, parce que c'est l'Empire Terranée, donc ils vont pas prendre des échecs en 3D, c'est des échecs
en plan.
Ils sont
pas assez intelligents pour les échecs 3D.
Ils ont pas eu le temps de développer les échecs en 3D, en fait, ils ont passé trop de temps.
Trop occupés à donner des couteaux dans le dos.
et du coup, on voit ce Picard façon penseur de Rodin, ultra musclé, qui a la main posée sous son menton, et je trouve ça génial. Parce que, Picard est quand même très intelligent. Hein, il est égal à lui-même.
Il a beaucoup trop de muscles sur ses
bras. ça me rappelle les dessins de... comment il s'appelle tant pis, je ne retrouverai pas. Celui qui était connu pour avoir dessiné Captain America avec des muscles sortis de nulle part qu'il avait inventé.
Rob Liefeld,
oui.
Voilà, celui qui a oublié que les femmes avaient des organes internes aussi.
Ils oublient tous dans les comics de DC et Marvel que les femmes ont quelque chose au niveau du ventre qui s'appelle les intestins.
Voilà. Par contre, ils n'oublient pas la poitrine.
Particulièrement Rob Liefeld.
Qui d'autre ? Il y a Riker. Riker est vachement bien.
J'adore ces petites perles à sa barbichette.
Ah, mais je trouve ça lui va pas, je trouve ça ridicule.
Ah ouais ? Ah ouais, non, mais
je l'ai
pas cool.
La baston, ils se battent quand ils se rencontrent, Picard et Riker. C'est une bagarre de catch, hein ? Il n'y a pas d'autre terme. Ils se prennent, ils se soulèvent et ils se jettent par terre. Ils se rencontrent dans un bar et ils se battent. Et genre, il se balance des... Pardon. Il s'attrape... voilà, c'est ça. À un moment, Picard arrive à ceinturer Riker et il lui fait une souplesse. C'est-à-dire, il se penche en arrière et il éclate le dos de Riker par terre. Alors, les souplesses, c'est vachement impressionnant quand vous regardez du catch. Mais en réalité, c'est complètement con parce que tu te fais aussi mal que ce que tu ne fais mal au type. Et je pense qu'en fait, les Tipton et Woodward... ont pris ce concept-là du catch pour le mettre dans l'univers miroir en se disant c'est visuel, mais tout le monde sait que c'est totalement impossible. Et ça colle tout à fait à l'univers miroir. Moi, quand je les vois se battre, ces deux gars, je me dis « Oh là là, c'est génial !» tu vois. Mais ça, aucun moment, tu te dis « c'est réaliste. »
Est-ce que c'est pas juste pour être aussi dans la continuité de la série originale où il y a un côté très catch dans les combats, particulièrement ceux de Kirk.
Fait pas mal de catch quand il se bat.
Oui, on l'avait dit dans l'épisode sur Khan, à un moment, il fait un DDT. Alors, il saute sur un mur, il se retourne, il attrape avec ses jambes, il ceinture la nuque de Khan. Et non, c'est pas de Khan, c'est d'un autre personnage. Alors, c'est pas dans cet épisode-là. Il ceinture la tête du type contre qui il se bat.
Il y a dans le film d'après aussi. Oui, il me semble dans le film d'après, on voit pas mal quand il se bat contre le Klingon, quand il se bat contre le Klingon sur la falaise.
Ah, il fait beaucoup de double fist. Ouais, c'est vrai que ça peut être vu comme un hommage.
À ne pas mettre les avant-derniers mots de Rémi dans un contexte différent.
Voilà, le double fist. Ensuite, qui c'est le troisième personnage? Diana Troy, qui est décrite de manière très sensuelle, mais comment il l'appelle? Il l'appelle sorcière, non? Je ne me souviens plus, je ne retrouve plus.
Moi, j'ai trouvé que c'était un peu le cliché de la femme fatale.
Ouais.
Oui, après, Inquisiteur.
Ouais,
ça colle. Moi, quand j'ai vu la couverture et que j'ai vu la tenue de Diana, je me suis dit ça va être catastrophique. Et en fait, c'est la seule à ne pas avoir d'uniforme et ça colle dans TNG, c'est la seule à ne pas porter d'uniforme.
Oui.
Bon, alors, ils ont un peu. Puis, ils n'en ont pas fait un. Hein, par exemple, dans les épisodes miroirs d'Enterprise, il y avait Oshi Sato qui, en gros, couchait un peu. Usait de ses charmes pour avoir ce qu'elle voulait, et moi j'avais un peu peur qu'ils fassent pareil avec Diana. Alors en fait, à part porter des robes de soirée très décolletées devant et derrière et des trucs très fendus, enfin c'est à peu près tout, c'est un peu, on va dire, le seul truc abusé du personnage.
Et elle a un fusil plus grand que les autres.
Oui, elle a un fusil qui est quasi plus grand qu'elle. À un moment, quand ils attaquent l'Enterprise, c'est quand tu le vois qui le tient, tu dis, mais déjà, elle le tient à une main.
Comment elle passe les portes?
Alors, juste.
D'ailleurs, on la voit pas s'en servir.
C'est pas la taille qui compte, ok?
Oui, mais il faut que ça soit maniable quand même.
Du coup, moi, quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, ah putain, oui, ils vont faire ce cliché des femmes hyper sexualisées. Et en fait, Beverly Crusher n'est pas du tout sexualisée. Ouais. Elle est vue comme un 120 fou.
Oui, et au niveau des uniformes, en fait, tous les autres personnages féminins ont les mêmes uniformes que les personnages masculins. Ils n'ont pas refait le ratage, pareil, d'Enterprise à faire des trucs, des crop tops et des trucs super bas. Autant ça marchait dans TOS parce que c'était quand même assez provocant de montrer des ventres de femmes dans les années 60, autant dans les années 2000, c'est un peu ridicule parce qu'on en voyait partout. Oui. C'était un peu la mode, mais voilà. Donc j'étais plutôt contente sur ce coup-là parce qu'en fait, il y avait eu que Diana qui sortait un peu du lot, comme elle sort un peu du lot avec ses combis et ses robes dans TNG.
Vu comme ça.
Wesley Crusher a un gros problème de coupe de cheveux.
Ah non, moi j'ai adoré.
J'ai regretté quand ils l'ont coiffé, quand il devient pilote sur l'Enterprise.
J'ai pas compris le concept de ce personnage.
Ça me fait penser à la coupe de cheveux de Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Et j'ai trouvé ça marrant de le voir en mode décalé, en fait. Le côté, voilà, les cheveux ébouriffés, des fringues un peu à l'arrache, avec les bretelles qui pendent sur les jambes. C'est marrant, et puis j'ai bien aimé le fait qu'il soit d'office présenté comme un... Enfin, d'office. Oui et non. Mais en fait, qu'il soit présenté directement et explicitement comme un génie. À partir du moment où sa couverture tombe, quoi. Et parce que je pense que, enfin, dans TNG, il y a cette ambiguïté sur Wesley pendant longtemps. c'est un génie, mais c'est jamais dit vraiment que c'est un génie, et du coup, je pense que ça, pour certaines personnes, c'est gênant, parce que du coup, c'est bizarre qu'ils réussissent tous si bien, mais en fait, c'est pas bizarre, c'est un génie, c'est normal. Mais alors que là, c'est carrément dit, voilà, ok, c'est un génie, c'est un génie, il peut analyser les statistiques d'un équipage en quelques minutes. Voilà quoi, c'est le personnage, il est comme ça quoi. Et j'ai bien aimé le fait que ça soit caché pour pas qu'il soit disséqué en laboratoire, enfin ils le disent pas, mais en gros qu'il soit pas trop exploité sans sa volonté quoi.
Alors je suis désolé, j'ai des grosses montées de ping, c'est très très particulier. Voyons.
Du coup t'as rien entendu, c'est ça?
Si, j'ai tout entendu, mais ça grésille sur la fin à chaque fois. Ok. Qui est-ce qu'on n'a pas fait comme personnage? Jordi Laforge, qui a la méga classe.
Sauf quoi, ah ouais, non, ses lunettes de piscine, moi j'ai pas trop accroché.
C'est vrai?
Ah ouais, je préfère. Enfin, bah après, moi j'aime tellement le visor tel qu'il est dans TNJ que c'est difficile de passer après, mais moi je trouve que ça fait vraiment lunettes de piscine son truc.
Ouais, bon, d'accord. Moi, ça, je sais pas, ça me fait penser à un film de SF un peu pourri, mais j'arrive pas à me rappeler lequel. Il y a pas. Bon, il y a Blade qui a des lunettes un peu comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas ce film-là en plus. Mais j'arrive plus à me souvenir. Il y a un truc que j'ai noté par rapport à Jordi Laforge. Un petit rappel des émissions précédentes pour les auditeuristes. À un moment, en fait, la Forge prend le poste d'ingénieur chef et il réclame en disant qu'il mérite la plus grosse part de butin juste après le capitaine. Et ça me rappelle Matou qui disait dans l'émission sur l'équipage fantasmé, il disait que le chef ingénieur était une des personnes les plus importantes juste après le capitaine, et qu'il avait même autorité qui pouvait surpasser le capitaine par moment. C'est lui qui décidait l'évacuation du vaisseau, de l'éjection du cœur, il pouvait lancer l'autodestruction. Et il y avait pareil, c'est peut-être moi qui suis allé chercher un peu vite, mais j'ai trouvé sympa ce petit côté. On respecte le chef ingénieur qu'on a trop souvent tendance à considérer comme... un personnage de seconde main. Et puis il a des grosses armes bien badass.
Puis il reste Data.
Oui.
Je suis assez dubitatif sur son arme à rayon expérimental qui ressemble fortement à un bras Borg. Je sais pas.
Il a même un œil, il y a un moment, il y a un truc sur les yeux aussi.
Oui, d'ailleurs, il a pas la même apparence selon les scènes.
Ah, ça c'est le dessinateur. Mais
dans la première fois qu'on le voit avec, ça fait vraiment la tête de Locutus en moins recouvrant. Et puis les fois d'après, il a juste le truc autour de l'œil. C'est assez curieux.
Alors son bras, moi, ça me fait penser à Atomic Cyborg, le gros nanar que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais qu'il faut pas regarder apparemment. Je l'ai jamais vu, je sais pas.
Si tu dis que c'est un gros nanar qui s'appelle Atomic Cyborg, moi ça me donne plutôt envie de le regarder en fait.
Ouais, mais ce qui paraît, il est vraiment mauvais.
Ça me donne encore plus envie de le regarder.
Mais écoute, tu le regarderas, on fera un hors-sujet dessus. Voilà. Non, si, on a oublié Barclay. Barclay qui a une place prépondérante dans cette série.
Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs le dialogue qu'il a avec, je sais plus si c'est avec Jordi ou Data, où il dit que Picard, il aime bien les... Parce que bon, dans l'univers miroir, ils sont tous un peu validistes, un peu racistes, un peu machin, qui dit qu'il aime bien les, je sais plus comment, les monstres, quoi, enfin les gens anormaux.
Les frics, et... il me semble.
Ouais, je sais plus comment il dit ça, mais... Et l'autre lui répond « Oui, je crois que ça s'applique aussi à toi, d'ailleurs. » J'ai trouvé ça assez marrant. C'était bien, le dialogue était fun.
Il y a pas mal de punchlines comme ça, c'est vrai. C'est assez sympa. je sais pas, est-ce qu'il y a des choses sur quoi vous voulez revenir par rapport au scénario
Dans le visuel dans le visuel, moi j'ai noté agréablement qu'ils ont ils ont repris les désintégrations des premières saisons de TNG, où on voit le squelette, à travers la personne en train de se désintégrer au moment de la désintégration. Et c'est particulièrement flagrant dans l'épisode de la saison 2 TNG Log as a Whisper. Mais c'est pas le seul moment où on le voit, mais c'est le moment où ils ont le plus fait durer l'effet, je crois, et c'est assez flagrant. Et là, visuellement, dans la BD, ils l'ont repris, et j'ai trouvé ça assez cool.
Oui, alors redonne juste un petit peu de contexte par rapport à cet épisode, parce que c'était une scène particulièrement choquante.
Oui, effectivement, oui. Donc c'est Riva, qui est un ambassadeur, un négociateur en fait, qui donc il c'est quelqu'un qui est muet physiquement, mais qui a des gens avec qui il communique par télépathie et qui transmettent ses pensées à l'oral en fait. Ça s'appelle un chorus, je crois, ou un chœur. Et donc je m'en rappelle plus exactement, mais chacune des personnes qui s'exprime représente un de ses états mentaux. Donc il y a une personne qui représente son émotion, une personne sa rationalité, et une autre, je sais plus quelle chose, son instinct, ou je me rappelle plus exactement, mais c'est un truc dans ce genre-là. Et donc il y a deux cultures qui se font à la guerre, et il est escorté par l'Enterprise pour aller sur la planète où il y a l'affrontement de ces deux cultures qui ont fait appel à la fédération pour avoir un médiateur en fait. Et donc il débarque et il y a des opposants politiques, des personnes qui sont là pour négocier, qui arrivent et qui désintègrent plusieurs personnes, dont le cœur de le chorus de Riva. Et donc il perd sa capacité à communiquer. Et donc dans cette scène, voilà, on voit de manière très crue la désintégration qui se fait couche par couche. Et dont on voit les squelettes couverts de sang. Enfin, si on fait pause à ce moment-là, ça... Enfin, après, moi, je sais pas, je suis amateur de film gore, donc ça me choque pas particulièrement, mais je pense que ça peut choquer les gens qui sont pas trop habitués, quoi.
Il y avait un petit côté Mars Attack, ou alors la scène dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, lorsque le bouffon vert lance une grenade et que les mecs sont transformés en squelettes d'un coup, puis disparaissent. J'avais trouvé ça cool.
Et du coup, j'ai bien, parce que c'est un truc qui s'est perdu après, en fait, dans les saisons suivantes et puis dans le reste de Star Trek. Et moi, j'aimais ce genre, ce style. Et du coup, je suis content qu'il l'ait repris dans la BD. En plus, ça colle bien l'univers miroir, qu'il ait des armes un peu sales, quoi, même si elles désintègrent.
Ok. je suis en train de feuilleter pour trouver. C'est vrai que c'est magnifique. Les scènes de combats spatiaux, elles sont superbes, elles sont dantesques. Ça a été très rapidement fait le tour, je pense, parce que c'est l'univers miroir, comme on disait, avec ses qualités, ses défauts. C'est-à-dire qu'il faut pas le prendre au premier degré. Il faut le comprendre que c'est totalement over the top et totalement surréaliste. Et assez drôle, mais sans... Disons que c'est pas de l'humour direct. Il faut rire de l'univers miroir, mais sciemment. C'est pas du nanar, hein, c'est pas ce que je veux chercher à dire, mais c'est vrai que voilà, il faut jamais prendre l'univers miroir au sérieux.
Ils vont à fond dans le concept. C'est un peu la version film d'action de Star Trek, l'univers miroir. On est là pour voir des prises de pouvoir, des gens qui se tapent un peu dessus, des vaisseaux qui se fightent, sans trop chercher à comprendre la logique, enfin, sans trop creuser la logique derrière, parce que sinon, ça se casse un peu. Oui, ça se fait, c'est pas... Voilà.
Malgré tout, ils cherchent à... Ouais. Après, du coup, ça, ce comics, il illustre assez bien le rapport que j'ai avec l'univers miroir, c'est-à-dire que j'aime bien quand il y en a un ou deux épisodes comme ça, Mais je trouve que quand ça dure, c'est pas forcément super intéressant pour moi, en tout cas. Parce que ce que j'aime dans le Linear Mirror, c'est l'effet de contraste qu'il donne, qui permet de se rendre compte de l'utopie de la Fédération et de Starfleet, par opposition justement, et que si on l'avait jamais, ou normalement on oublierait à quel point c'est utopique, et ça permet de voilà de comparer. Et du coup, quand toute l'histoire se déroule dedans, sur un comics de 5 tomes comme ça, bah finalement je trouve que c'est pas si intéressant que ça, quoi. C'est fun, hein, comme je le dis, moi je me suis amusé, mais c'est pas c'est je trouve pas ça tellement intéressant en termes d'enjeux, de narration, etc., quoi.
Ouais, c'est un peu long, hein. Il y a aussi beaucoup de dialogues. Beaucoup, beaucoup. Non?
Un
Ça
peu
quoi?
quoi?
J'ai trouvé que c'était un petit peu long et qu'il y avait beaucoup de dialogues.
C'était un peu verbeux, ouais, oui,
Ouais,
il
un
y a
peu
des
verbeux.
moments. C'est vrai que enfin, on aurait pu attendre un peu plus d'action, même si il y en a, puis ils passent pas mal de temps à expliquer, enfin, à parler de leur plan, à manigancer. Ouais, c'est peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop poli, enfin, un peu trop de politique et pas assez d'action, au final.
Bah moi j'ai bien aimé que ça prenne un peu son temps pour mettre en place les choses. De manière générale, je trouve que alors c'est pas forcément propre aux comics, même c'est même plutôt propre aux séries télé, mais je trouve que on cherche à aller trop vite maintenant dans les œuvres, de manière générale.
Oui.
Et je trouve pas ça plus mal que des fois ça prenne un peu son temps, quoi.
Mais est-ce que
Le
ça
temps de
correspond?
poser, de faire des choses. Après, c'est sûr que ça tranche un peu avec le côté justement très action de l'univers miroir, par rapport à ce que vous disiez avant. Mais ouais, moi j'ai ça c'est pas j'ai plus moi pour moi c'est plutôt un point positif, quoi.
Ben, voilà, le truc, c'est que, comme tu viens de dire, je trouve que ça va un petit peu, ça contre un peu l'univers miroir. Mais bon. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, à propos du. Donc là, c'est très long. Ça dure tout dans l'univers miroir. Le tome suivant, Through the Mirror, à travers de le miroir. Est
Ouais.
plus basé, enfin c'est pas et plus, c'est il se passe totalement dans l'univers Prime de TNG, mais ça on en reparlera plus tard. Puis à la fin, je spoil un peu, ouais, bon c'est pas trop grave, c'est vers la fin en fait qu'arrivera l'univers miroir dans l'univers Prime, et on aura un troisième tome qui n'est pas encore paru aujourd'hui qui s'appelle Terra Incognita. Qui est le crossover total entre les deux séries, entre les deux équipages de TNG Mirror et TNG Prime. Donc en
Ah
fait,
oui, en fait, il y a un but
voilà,
derrière ça. Si on
c'est un
parle
triptyque.
d'univers miroir, ouais, d'accord,
Enfin, c'est un triptyque pour le moment, peut-être qu'ils feront autre chose
ok.
après Terra Incognita, mais je ne sais pas, seul l'avenir nous le
Ouais,
dira.
ils veulent poser un contexte dans chaque univers avant de les faire se rencontrer.
Exactement.
Le truc, ok.
Et après, bon, l'univers Prime, tu le connais, donc ça arrive assez rapidement, mais c'est pas une véritable opposition, quoi. Bref. Bref. Je pense, on a été assez rapide, mais d'un côté, il n'y a peut-être pas grand-chose non plus à dire là-dessus.
On peut peut-être parler de l'Enterprise D version miroir.
Oui, qu'est-ce qu'il a de différent? Il est jaune?
Bah, il a une nacelle de plus,
Ah, j'ai pas fait gaffe.
comme dans le final de TNG.
Ah ben oui. Ouais, mais ça fait
Alors, est-ce que
très
ça veut
over the
dire
top, hein.
qu'il... Ouais, je sais pas, enfin, même dans le final de TNG, d'ailleurs, j'ai pas trop compris ce délire de vouloir absolument rajouter une nacelle à l'Enterprise D. Apparemment, ça plaît beaucoup aux designers, mais je sais pas. Alors après, ça a une utilité dans l'histoire là, parce que ça permet de faire la manœuvre Picard de manière beaucoup plus efficace et audacieuse. J'ai trouvé ça très rigolo qui justifie cette possibilité par le fait qu'il y ait une troisième nacelle. Mais le Stargazer avait quatre nacelles, donc je suis pas sûr que ce soit le nombre de nacelles qui est vraiment de l'importance, mais bon. Je trouve ça rigolo.
Après, c'est pas la taille qui compte, c'est pas la quantité qui compte. La manœuvre Picard, c'est lorsqu'il se redresse le t-shirt, hein, c'est ça? On est tous d'accord.
Voilà.
Non, parce que
Et du coup,
ça,
grâce
y a
à
Riker
troisième
qui le
nacelle,
fait.
il peut redresser son t-shirt à la vitesse de la lumière.
C'est vrai que d'ailleurs, ça, on le voit pas. Il me semble avoir vu des comic books dans lesquels on le voit Picard tirer sur son t-shirt. Peut-être même dans le prochain comics, je sais plus.
Bah, là, on va pas le voir parce que de toute façon, il a une ceinture, donc il n'a pas forcément besoin de redresser son uniforme, vu qu'il est maintenu en place.
D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le capitaine Jellicoe qui envoie un de ses hommes à la torture
Oui, parce
parce
qu'il n'a
qu'il y a
pas
des
été
plis sur
repassé.
son uniforme.
J'ai
Il avait
trouvé ça.
pratiqué la manœuvre Picard, il n'aurait pas été torturé.
Voilà.
J'ai trouvé ça. Non, en fait, il lui dit, votre uniforme n'est pas repassé. Et j'ai trouvé ça pas crédible parce que sur la plupart des autres gens, soit on voit les mêmes plis, soit les muscles remplissent assez bien. Puis, je sais pas, je les vois, je les vois, je vois assez mal les officiers de l'univers miroir repasser leur chemise avant
Non
de.
mais je pense que c'est parce que Jellicoe aimait pas sa tête, il a trouvé une excuse bidon, puis voilà.
Ouais. Je sais pas, ils auraient pu trouver quelque chose de plus cohérent. Ça faisait un peu genre faut qu'on trouve un truc pour montrer que Jellicoe c'est un con et qu'il envoie bouler les gens pour rien. Et bon, enfin, ouais, j'ai trouvé
Ouais.
ça pas très.
Jellicoe est un con.
Pour en revenir à la manœuvre Picard, donc la vraie, en dehors des blagues, dans TNG, c'est quand il passe très brièvement en distorsion pour se rapprocher du vaisseau ennemi et ça brouille les senseurs et même visuellement, ça donne l'impression que l'Enterprise a deux endroits en même temps. Et ça lui permet de balancer une torpille. Sans qu'ils sachent de quel côté renforcer les boucliers, et surtout, ça permet qu'ils aient une chance sur deux de se tromper en le visant. Et là, du coup, c'est utilisé pour qu'il se multiplie 15 fois et qu'il balance des torpilles dans tous les sens et il détruit toute une flotte à lui tout seul. Ils ont un peu fumé, mais c'est ça qui est rigolo. Donc, voilà. Et parce qu'il y a une troisième nacelle.
Ah, mais oui, ça change tout.
C'est la puissance de la troisième nacelle.
Ouais, je suis en train de feuilleter. Il y a vraiment des gros problèmes de proportion dans les visages. Ça va pas du tout. Bien.
Ah oui, mais du coup, j'ai retrouvé la scène où tous les Enterprise tirent de partout. Ouais, c'est un peu abusé quand même. Mais c'est joli!
C'est beau, ouais, c'est magnifique. Hein.
Mais c'est vrai que je feuillette aussi de mon côté ce que vous dites sur les. En fait, je trouve en fait ce qui est beau, c'est la colorisation.
Oui.
Mais le dessin en lui-même est pas spécialement beau en fait. C'est vraiment la colorisation qui est faite avec des aplats de. Ça fait vraiment peinture. Je sais pas si c'est la peinture qui a été utilisée, mais qui est vraiment très très jolie. Mais effectivement, le dessin, il y a des phasers. Des fois, ils ont la tête qui est trois fois trop grosse. Ouais, c'est vrai que le dessin est pas terrible en fait. C'est totalement rattrapé par la couleur.
Il y a des fois, ils font trop d'ombre sur les visages aussi. C'est pas très. Enfin, je sais pas. Il y a un truc sur les visages et les expressions des visages qui me gêne. Surtout quand il fait des gros plans. Il y a un moment, tiens, je suis en train de retrouver quand Picard dit aux Cardassiens, enfin, ceux qui sont en train de fuir, rentrent, enfin, fuyez et dites à votre chef qu'on arrive. On voit un bout de son visage sur l'écran des Cardassiens et il a la bouche ouverte et on voit des espèces de filets de bave dans sa. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça.
Sinon, vous avez noté quelle arme utilise Picard?
Elle avait l'air bizarre, mais j'ai pas regardé ce que c'était.
Il utilise un disrupteur Klingon.
Ah, ça oui, d'accord, ok.
Et je trouve ça pas mal parce que ça fait genre, il a pris sur le cadavre d'un Klingon, quoi. C'est un peu le butin de guerre qu'il utilise contre ses ennemis après, quoi. Ça m'a évoqué ça. Ouais, je sais pas. C'est un petit clin d'œil marrant.
Ils boivent des brocs. Il y a une scène où Picard s'enfile une pinte à une vitesse monumentale. J'ai l'impression qu'il
d'ailleurs,
en boit
en
une
parlant
à chaque case.
Ouais. À la fin, quand ils font la fête, il y a les bouteilles avec le goulot penché, comme on voit dans la série originale, comme on voit dans le bar de Gainan aussi.
Ah bah Gainan, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Elle est vachement impressionnante avec ses yeux exorbités, avec ses cheveux, ses dreads complètement lâchés qui partent sur le devant, son espèce de cicatrice sur le front, on sait pas trop ce que c'est. Mais j'ai été déçu parce que du coup elle a une apparition très très mise en avant et très très marquante et puis finalement elle fait rien quoi. Enfin, elle
ouais,
va dire à Picard,
elle
réfléchis un peu et puis elle se barre quoi. Enfin...
C'est ça. Puis ses explications, enfin quand elle parle, c'est très, enfin c'est pas clair, mais c'est encore moins clair que quand, je sais pas comment dire, elle te sort trois phrases un poil philosophiques, réfléchis à ce que le vaisseau peut faire pour toi, patati patata, puis c'est, enfin, j'ai trouvé ça un peu raté. Surtout par rapport à l'urgence qu'elle avait de vouloir lui parler, si c'était pour lui sortir trois banalités sur genre réfléchis un peu à comment tu vas faire, enfin comment tu vas gagner. Je sais pas, Picard, il aurait pu le faire tout seul, quoi. Il n'avait pas forcément besoin
Ouais, moi
de
je
lui
pensais
faire
qu'elle allait
ça.
sortir un truc beaucoup plus important que ça dans l'histoire, quoi. Alors que là, ouais, c'est
Oui.
ça. C'est anecdotique ce qu'elle lui dit, quoi.
Ouais, ils
En
l'ont
plus, elle
ramené.
court, elle renverse des gens comme si c'était hyper.
Oui, mais c'est ça. C'était genre en mode. Enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'elle avait un truc, soit une révélation, soit un truc caché à faire connaître à Picard sur je sais pas, le plan de ses ennemis ou autre. Mais au final, c'est bof, quoi.
C'était pour rappeler un peu la relation qu'ont Picard et Guinan dans la série. Ils se comprennent à
Ouais.
demi-mot, sont très proches.
Ouais, bah du coup c'est un peu raté, je trouve.
Après,
Et
d'un
je veux
côté,
dire.
si elle s'était pas mise à courir dans tous les sens pour lui dire écoute ton vaisseau, il serait mort.
Ouais, je sais pas, quelqu'un d'autre aurait pu lui dire ou il aurait pu le réaliser par lui-même, je sais pas. Là, c'est vraiment, en plus, elle lui fait aucune révélation, quoi. Elle lui fait arrête de.
Bah oui,
Enfin,
je suis en train
fais
de
gaffe à
vous.
ton ego et réfléchis un peu. Ouais, merci, quoi. Je savais pas qu'il fallait que je réfléchisse. Heureusement que t'es là, Gainan.
Ouais. J'en réfléchis à ce que tu peux faire pour tirer avantage de la situation. Ok. Enfin...
Ah, un autre truc que j'ai noté qui n'a rien à voir, c'est les vaisseaux ont des. Ils leur ont fait des espèces de gros lance-torpilles sous les soucoupes, sur la plupart d'entre eux. Ça fait comme des gros canons qui partent de l'endroit d'où. D'ailleurs, c'est bizarre. De l'endroit d'où part normalement le yacht du capitaine. Et. Bah, pareil, je trouve ça pas mal que ça met en perspective le fait que dans l'univers Mirror, c'est des vaisseaux de guerre. Et pas des vaisseaux d'exploration. Et du coup, ça montre bien que les vaisseaux qu'on voit dans l'univers Prime sont des vaisseaux d'exploration, parce qu'ils n'ont pas des armes aussi grandes et aussi encombrantes.
L'Enterprise de la
D'ailleurs.
série originale avait pas un tireur comme ça de torpilles? Il me semble que les torpilles partaient d'une grosse soute ou je sais pas quoi qui était sous la coupole. Je rêve peut-être hein, ou je me plante. Ah ça y est. Ah oui non, ça n'a rien à voir. Là c'est carrément un vrai canon qu'ils ont sous la coupole.
D'ailleurs, je me rends compte que j'ai parlé du yacht du capitaine. C'est un truc qui a toujours été prévu par les designers sur les vaisseaux de Starfleet, sur les Enterprise en tout cas, pour toutes les séries et tous les films. Et ça n'a jamais été utilisé. Même le Voyager, il en a un, ça n'a jamais été utilisé dans les séries. C'est assez marrant. Et du coup, c'est rigolo. Je trouve ça pas bête qu'il ressorte en comics, quoi.
C'est très
Donc
bizarre
en
que
fait
tout.
pour expliquer c'est en fait sur soit sur le Enterprise de Kirk les Enterprises de Kirk d'ailleurs, l'Enterprise D, sous la soucoupe, il y a une espèce de navette améliorée qu'ils appellent Capitaine Yak, un truc comme ça, et qui est incrustée dedans en fait. Et du coup, qui peut en sortir en laissant plus ou moins son empreinte, voilà, et se détacher pour partir de manière autonome. Et ils l'ont prévu pour tous les vaisseaux, et à chaque fois ils l'ont pas utilisé. C'est assez marrant. Moi j'ai appris ça en lisant les fascicules de la collection Eagle Moss, à laquelle j'ai été abonné pendant une période. Et ça m'avait vraiment surpris, parce que je m'étais dit, mais ça sort d'où ce truc, c'est quoi cette histoire? Et puis en fait, c'était prévu dans les designs, mais ça n'a jamais été utilisé. Et c'est qu'ils le sortent en comics, ça montre qu'ils ne sont pas seulement intéressés aux matériaux visuels, mais qu'ils sont aussi allés creuser dans les concept design. Et ça c'est pas mal. Salut, je suis un blaireau.
C'est un crétin.
Oui, c'est Thierry, Dragor, enfin bref, vous voyez. Je suis de retour du futur pour vous dire que je me suis planté quand j'ai dit que le yak du capitaine était prévu depuis l'Enterprise de Kirk. En fait, ça a été prévu à partir de l'Enterprise D, et puis ça a été ensuite prévu sur d'autres vaisseaux, comme notamment l'USS Voyager. Et l'Enterprise E, et d'ailleurs, il apparaît dans Insurrection. Voilà, allez, je retourne à mon époque. Salut.
Ça vient de son éducation, ça. Ses parents doivent être des crétins. Je t'avertis, Lorraine, si jamais t'as un môme qui se conduit comme ça, t'es plus ma fille. Hein.
Ok, t'avais noté d'autres choses?
J'avais rien noté en fait. Je sors les trucs au fur et à mesure qu'ils me reviennent en mémoire. Donc,
Et toi, Pauline, est-ce que tu as noté des choses en particulier qui te...
Je suis en train de relire mes notes. Il y a des trucs que j'ai déjà dit.
Est-ce que vous avez lu la version numérique ou une version papier?
Une version numérique.
Ok, parce que là, moi, j'ai une version papier dans les mains. Et l'histoire est agrémentée des magnifiques, mais quand je dis magnifique, c'est vraiment magnifique couverture. Notamment, c'est le moment où je vais prononcer à l'espagnol, Jorge Calzudas, ou George Calzudas, peut-être que c'est George Calzudas, tout simplement, je me suis pris la tête, qui fait des couvertures. Reprenant juste un personnage façon univers miroir et comment on dit trois quarts, on voit juste le haut du torse et la tête, et tous sont plus beaux les uns que les autres, notamment la magnifique couverture que je pense on va utiliser comme illustration de l'épisode, où on voit Diana Troy en train d'utiliser ses pouvoirs psychiques. Donc ils ont fait plein de spirales autour de sa tête, et elle a des boucles d'oreilles en forme de Enterprise, et la couverture est franchement magnifique. Je vous la partage sur le chat, et j'ai trouvé ça particulièrement réussi, et toutes les couvertures sont vraiment superbes. Et donc ça, c'est vraiment un gros avantage toujours dans les versions physiques. Bon, la photo est dégueulasse. Mais bon. Voilà. Écoutez, si vous n'avez rien de plus, je pense qu'on va attaquer la fin. On va l'attaquer par derrière, hein, façon Mirror Universe.
Dans le dos.
Dans le dos. Ça revient un peu à ce que je disais. Tu montes dans un ascenseur, paf, t'es mort. Donc... Mirror Broken, est-ce que vous conseilleriez cette lecture à un noob Trek?
Si il a eu l'occasion de voir déjà un peu ce qu'est l'univers miroir, oui. Sinon, non, parce que c'est pas. Je pense qu'il faut connaître un peu le contexte et le côté fun et délire de l'univers miroir pour on va dire, je pense, pour apprécier.
Oui.
Sinon, quelqu'un qui connaît pas Star Trek ou qui a à peine commencé et a rien vu de l'univers miroir, je pense qu'il va se demander qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, comment, enfin voilà, c'est non, voilà.
Ben, mon avis rejoint un peu le tien. Si, enfin bon, ça de toute façon, c'est, on l'a dit plein de fois, si vous connaissez pas Star Trek, vous ne lancez pas dans les comics, il faut commencer par les séries ou les films. Mais, oui. Dans ce contexte particulier, c'est sûr qu'il faut connaître l'univers miroir, mais même pas que l'univers miroir, parce qu'il faut connaître bien les personnages. Mais bon, généralement, les univers miroirs sont dans les séries où il y a... Ou les enfin bref, c'est suffisamment loin dans les séries pour qu'on connaisse bien déjà l'univers Prime. Sauf un peu dans Discovery où c'est dès la première saison. Dragor, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu conseillerais cette lecture ?
Ben moi, je pense que pour apprécier l'univers miroir, faut déjà connaître l'univers. Donc ben pour des débutants, c'est vachement ça limite pas mal quand même. Mm-hmm. À mon sens. Parce que si tu mets pas comme je disais tout à l'heure, si tu mets pas ça en perspective avec l'univers norme principal, t'as juste de la SF pas très intelligente et rigolote, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est le contraste, quoi. Si tu l'as pas, je suis pas sûr que ça soit vraiment plaisant.
Ouais, je comprends. Sur le chat, on a Minos qui nous dit « J'aime bien les dessins, il y a un côté peinture pastel sympa ».
Merci, et
il a
Minos.
Tout à fait vrai. Il a tout à fait vrai. Il a tout à fait raison.
Enfin, il est d'accord avec moi, donc il a raison, c'est logique.
Allez, auditeurs, auditrices, vous l'avez compris, Mirror Broken, on le conseille, mais ça vous branche. Voilà, c'est très bien résumé.
C'était vachement utile. Merci Star Trek pour les nuls.
Lisez-le si vous l'avez aimé. Voilà. Allez, dans deux semaines, ce ne sera pas la cinquième l'émission pardon sur le cinquième film. Ce sera une petite émission surprise. D'ailleurs, pour l'équipe de STPNL également, ce sera une surprise parce que vous ne savez pas ce que j'ai préparé. Dans un mois. Donc dans 4 semaines, nous retrouverons le rythme normal du cinquième film. Ultime Frontière. Non. Oui, j'allais dire ça, Final Frontière, Beyond the Frontier. ça y est. Out of the Last the
Final Frontier.
Voilà, Final Frontier avec Cyborg.
Le magnifique Cyborg.
Et les licornes, oui. Magnifique licorne.
Enfin, ça, il a une licorne.
Il a une licorne.
Oui.
C'est vrai. Elle chie pas un arc-en-ciel, par contre. Bien.
Oui, elle n'est pas très mignonne. Mais...
N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à nous partager votre point de vue sur ce comic book. Pour cela, vous avez évidemment la page Facebook Star Trek pour les nuls, la page Twitter Star Trek pour les nuls et la page, c'est tout nouveau, Instagram Star Trek pour les nuls. Pardon.
Pourquoi tu prends un accent du sud raté?
Je sais pas. Parce qu'il est du sud.
Non, mais surtout que je suis du sud. Tu m'insultes de raté moi-même, c'est ça?
Écoute, je sais pas ce que t'as fait en forçant sur ton accent, mais je sais pas, ça sonnait pas.
Minos qui me demande qu'est-ce que je mets sur Instagram finalement. Si tu t'étais inscrit à Instagram et que tu followais Star Trek pour les nuls, tu saurais qu'il y a déjà
la violence.
3 photos depuis, je sais plus, quand est-ce que j'ai créé, 4 ou 5 jours.
Il y en a eu 2 de plus depuis ce week-end en fait, c'est ça?
Et ouais, bim. Et alors non, alors Minos nous dit que ce n'est pas de son âge Instagram, mais je suis désolé.
Il n'y a pas d'âge pour Instagrammer.
Voilà, il n'y a pas d'âge pour Instagrammer, et l'âge, il est dans la tête. Voilà, quand je disais qu'on faisait de la philo de comptoir ce soir.
Alors est-ce que Minos est un vieux machin, alors du coup, s'il dit qu'il n'a pas l'âge d'aller sur...
En général, quand tu penses que t'as pas l'âge pour un truc, c'est que déjà t'es pas mal atteint, à mon avis. Le pauvre, il peut pas se défendre.
Ah ouais,
oui,
putain.
Non, mais on s'en fout que tu sois né sous Pompidou. Il nous dit qu'il est né sous Pompidou, mais ça nous donne pas d'indication.
Ça confirme.
On remarquera que Plus t'es
Est-ce
jeune.
que je dis sous quel président je suis né, moi, d'abord? Non, voilà.
Je sais pas. Mais plus t'es jeune, moins tu estimes ne pas avoir l'âge pour faire les choses. Quand t'as 4 ans, t'es persuadé que regarder des films porno et faire la guerre, c'est tout à fait ton âge, il n'y a aucun problème. Hein. C'est les adultes qui sont bizarres à pas vouloir que tu essayes t'entretuer avec des gens sur un champ de bataille. Et donc, il n'y a que quand t'es vieux, en fait, que tu te dis que t'as pas l'âge pour des trucs.
Allez, on va clôturer cette émission. Auditeurs, auditrices, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, si vous êtes à table. Au revoir, Pauline.
Au revoir.
Et au revoir, Dragor.
Crapla !
Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuls. En avant.